Alors, ce premier dimanche de carême est traditionnellement réservé à ce récit de la tentation du Christ au désert durant 40 jours et 40 nuits, qui fait allusion à plusieurs 40 qui existent en particulier dans l'Ancien Testament. Je ne vais pas tous les citer, mais déjà Moïse qui a jeûné 40 jours, 40 nuits avant de recevoir la loi. Ensuite, Élie, qui a jeûné avant 40 jours et 40 nuits avant d'aller sur l'Horeb, où il a contemplé Dieu qui se révélait dans la brise légère. Bon, vous avez plusieurs fois 40. Et 40, dans la Bible, c'est pas 20 plus 20. 40 dans la Bible, ça veut dire une naissance. Parce qu'on estimait, à tort ou à raison, mais qu'une grossesse était 40 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire sans règles pour la femme. Et donc, du coup, 40 pour un homme de la Bible, c'est, au fond, une naissance, c'est un enfantement. Et c'est intéressant de voir que c'est 40 jours aussi que le Seigneur a été tenté à jeûner, puis ensuite il a été tenté. D'une certaine manière, le combat spirituel nous invite à une nouvelle naissance, à naître de nouveau. Si vous naissez de l'eau et de l'esprit, eh bien vous n'y entrerez pas, dit Jésus aussi à Nicodème. Donc c'est intéressant de voir cette notion de 40. Et ensuite, un autre point, c'est les tentations en tant que telles. Premièrement, quelle est la différence entre la tentation et le péché? Vous la connaissez. La tentation, c'est avoir l'idée de, c'est avec son imagination, parce que le démon s'adresse à notre imaginaire, de dire, bah, tiens, ce serait peut-être bien de prendre le bien du voisin, ce serait bien de faire telle ou telle chose, d'avoir toujours raison, de dominer, etc. Bon, c'est cette dimension d'imaginaire. Dans la tentation, c'est que on imagine un bien, mais qui est un faux bien. Donc c'est intéressant de dire que où est-ce qu'on en est, nous-mêmes, au niveau de notre imagination et d'une certaine canalisation de notre imagination, de notre imaginaire, pour ne pas nous laisser aller dans les tentations, dans ce qu'on pourrait penser être un bien, mais qui en fait aboutit à une impasse. Trois tentations très caractéristiques. Dans l'évangile de Luc, c'est un autre évangile où justement il parle de la tentation, il y a ce récit, et à la fin du récit de Luc, il est dit « Ayant épuisé toutes les formes de tentation, le démon le quitta jusqu'au moment voulu. » Donc du coup, c'est intéressant de dire que, au fond, d'une manière ou d'une autre, à travers ces tentations, ce sont toutes les autres tentations que nous pouvons connaître qui sont reliées à ces trois grandes tentations du Christ. La première tentation, évidemment, au bout de 40 jours, 40 nuits de jeûne, forcément, on a faim. On peut dire, au fond, le démon ne fait que répondre à un besoin. Bon, logique. Mais je pense qu'il faut aller au-delà, c'est que, à travers le jeûne, qui fait partie aussi des exercices spirituels du carême, on est invité à un travail sur nous-mêmes. Le jeûne nous fait sentir, nous créatures face au Créateur, nous fait sentir comme dépendants de Dieu, nous fait sentir comme dans une certaine fragilité, fait parfois ressentir aussi la faim. Et donc, du coup, quelque part, derrière ça, ça vient aussi de celui qui propose. Si c'était un ange qui le servait, la preuve qu'il a bien accepté d'être servi, parce que les anges le servaient, c'est ce qui est dit à la fin de Saint Matthieu, là, qu'on a écouté, là. Voilà, donc, les anges le servaient. Mais parce que ça vient des anges, du coup, quelque part, d'où vient la réponse aux besoins que j'ai? Est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient du démon? Est-ce que ça m'oppose à Dieu et face à un besoin qui a à voir avec une satisfaction immédiate, un plaisir immédiat? Et dans cette tentation-là, eh bien, on reconnaît à toutes les formes de tentation qui ont à voir avec notre corps. Parce qu'évidemment, se nourrir fait partie des besoins du corps. Ensuite, la deuxième tentation, et je vois que c'est différent dans Matthieu et dans Luc, la deuxième tentation, c'est par rapport, il est porté au sommet du temple. C'est par rapport, au fond, à la prière, à Jérusalem. Il est transporté en esprit à Jérusalem, le lieu de la présence de Dieu, avec la présence du Seigneur qui est là, et bon, et du coup, il est mis en esprit au pinacle du temple. Et c'est intéressant de voir qu'au fond, on se met au-dessus de Dieu. Et ça veut dire quoi, se mettre au-dessus de Dieu? C'est pas se reconnaître, c'est toujours pareil. C'est rentrer dans un orgueil, une forme de toute-puissance. Et comment moi-même, je peux me mettre au-dessus de Dieu? Tout simplement en ne priant pas. Si je n'ai pas de temps pour la prière, c'est que quelque part, je dis que moi, le Dieu, c'est moi. Et je pense que le Seigneur, à travers cette tentation, a été tenté justement quelque part à s'enorgueillir aussi de sa propre beauté, de sa propre splendeur. On imagine la personne divine dans cette humanité qu'est le Christ. Forcément, il y a peut-être une tentation de s'approprier les propres dons de Dieu. Et c'est vraiment l'orgueil de l'esprit. Alors que le premier, c'est l'orgueil de la chair. Le deuxième, c'est l'orgueil de l'esprit. Et le troisième, c'est l'orgueil des richesses, du pouvoir. À travers, je te montrerai, voilà, si tu te prosternes devant moi, eh bien, je te donnerai. Eh bien non, l'homme, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il a répondu avec la parole de Dieu la première fois. Hein, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu aussi. À chaque fois, Jésus répond avec la parole de Dieu. Et donc, c'est intéressant de voir comment, au fond, à travers cette tentation des richesses, cette tentation du pouvoir, qui est en nous, hein, tout ça c'est en nous, même si on n'y cède pas, mais cette tentation du pouvoir, eh bien, d'une manière ou d'une autre, on est invité à rentrer dans une humilité face aux richesses, face aux biens matériels, face à tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent nous donner du pouvoir, que ce soit par la vie professionnelle, par la situation sociale, économique, qui nous donnent un ascendant sur les autres. Donc c'est intéressant de dire ces trois tentations, ces trois lieux de combat spirituel, que l'on combat par le jeûne, la prière et l'aumône, hein, le jeûne par rapport à la tentation de l'orgueil de la chair, l'aumône par rapport aux richesses, la prière par l'orgueil de l'esprit. Ça fait aussi allusion aux vœux religieux, aux conseils évangéliques, hein, de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, qui sont des conseils pour tous ceux qui veulent vivre l'évangile, pas seulement les religieux. Les religieux les professent comme un état de vie stable, mais comme nous, comme vous, comme laïcs, vous êtes invités à vivre une certaine pauvreté, chasteté, obéissance selon votre état. Donc du coup, c'est intéressant de se dire qu'il y a en nous ces combats. Alors, selon les époques de la vie, selon les étapes, selon les personnalités, il y a plus un combat qui est livré que l'autre. Mais sachant qu'il y a une connexion aussi entre les différentes tentations. Quelqu'un qui est très attaché au bien matériel, il est probable aussi qu'il soit assez orgueilleux et vouloir dominer. Quelqu'un qui a du mal avec dominer les passions du corps, il est probable aussi qu'il soit dans une forme de toute-puissance. Et donc, du coup, au fond, il y a une connexion entre ces combats spirituels ou entre ces tentations, comme il y a aussi une connexion entre les vertus, et c'est-à-dire à la fois de tempérance, à la fois de justice, de force, etc. Il y a de prudence, il y a une connexion, parce que on se dit dans le péché comme dans la grâce, et il y a aussi on est une unité. Donc c'est intéressant de se dire que il faut être attentif à ces points-là, parce que justement, d'une manière ou d'une autre, ça, c'est exhaustif. Et quand on regarde par exemple les scandales politiques, d'une manière ou d'une autre, vous pouvez les rattacher à une des trois formes de tentation. Que ce soit l'abus de pouvoir, le détournement de fonds, les questions de manque de fidélité, etc. Bon, voilà, on voit bien que dans nos hommes politiques, ils sont peut-être plus exposés que d'autres, mais ce que l'on voit en nous aussi. Hein. Et puis, pour terminer, la question des anges. Les anges gardiens et les anges de servir. Et c'est intéressant de voir que, au fond, l'ange est présent là, comme il est présent au moment, et il attendait justement dans Saint-Luc, ayant épuisé toutes les formes de tentation, le démon se retira jusqu'au moment voulu. Et c'est quoi le moment voulu? C'est le temps de l'agonie, et combat en grec se dit agonia, donc c'est vraiment le temps du combat spirituel. Donc c'est intéressant de voir le lien au fond, l'ange qui est présent là, l'ange qui est présent à l'agonie, et quelle est la mission de l'ange, si ce n'est de nous soutenir dans le combat spirituel. C'est pas, ça ne sert pas seulement à trouver une place de parking, quand on tourne, on dit à nos anges gardiens, faites que je trouve une place de parking. Non, ça sert aussi, l'ange gardien, à nous donner des raisons dans notre intelligence pour suivre la volonté de Dieu et combattre intérieurement. Donc je crois que c'est intéressant de commencer, la liturgie nous le donne, vraiment comme un cadeau, par ces tentations. Le Christ aussi a été tenté, comme nous serons tentés. Eh bien, nous nous appuyons sur ce combat que le Christ a mené pour pouvoir livrer notre propre combat. Et qu'est-ce qu'on fait dans la confession, et qui est un exercice spirituel, une arme spirituelle par excellence pour livrer le combat? Eh bien, c'est saint Benoît qui répond, on fracasse la tentation contre le Christ. On fracasse notre combat contre le Christ. Peut-être de confession en confession, et c'est souvent le cas, on redit la même chose. Mais de confession en confession, je dis à Jésus, mon combat, je veux te le confier. C'est ça mon combat. Je ne veux pas rester seul avec mon combat, que ce soit contre la chair, contre les richesses, l'orgueil des richesses ou l'orgueil de l'esprit. Alors on va demander au Seigneur d'être nous-mêmes attentifs à cette dimension-là, et que en équipe, en couple, nous puissions peut-être revisiter ces trois formes de tentation, de voir sur quoi on est peut-être le plus fragile, et d'invoquer aussi le Seigneur et la Vierge Marie pour nous soutenir dans cette fidélité au Seigneur.